Hey, salut, c'est Aurélie. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode où je vais te parler de mon tout premier investissement locatif, qui est d'ailleurs, je dois te l'avouer, à ce jour, le seul et l'unique. Alors, pas parce que j'ai fait toutes les conneries qu'on pouvait faire dans cet achat, ce premier investissement locatif, hein, non, ça ne m'a pas freinée. C'est juste ben, la vie, quoi, en fait. Je me suis concentrée, j'ai géré un business, et puis il y a eu, la vie, voilà, c'est tout. C'est tout, c'est résumé, c'est très bien résumé comme ça. J'ai fait également ces dernières années la résidence principale, donc j'ai vendu, j'ai racheté une résidence principale et j'ai également vendu une maison de famille. Maintenant que tout ça s'est fait et que j'ai retrouvé un nouveau CDI, je vais pouvoir m'y remettre enfin. Et je souhaitais te sortir cet épisode, donc pour ça, parce que je vais me remettre à l'investissement locatif, mais aussi parce que mon premier investissement date d'il y a 10 ans. Et oui, voilà, ça passe super vite. C'est vraiment fou. Le temps passe trop vite. Donc dans cet épisode, je vais te raconter cet achat en fait à travers toutes les conneries, comme je t'ai dit, que j'ai pu faire et celles que je n'ai pas faites aussi, parce que j'ai pas fait que des conneries. C'est juste que c'était bah, le premier investissement. J'y suis allée à la wall again, voilà, sans me former, sans rien. J'y suis allée freestyle. C'est aussi ce qu'il faut faire des fois. Faut arrêter de trop réfléchir, faut se lancer. Et oui, on fait plein d'erreurs. Oui, j'ai fait plein d'erreurs. J'en ai évité certaines. Est-ce que je regrette? Absolument pas. Voilà, j'ai appris plein de choses et j'ai hâte de refaire d'autres investissements locatifs. Donc voilà, dans cet épisode, je vais vous parler des erreurs à ne pas faire quand on investit en immobilier. Bien sûr, cette liste n'est absolument pas exhaustive, hein, il y en a d'autres. Là, c'est juste celles en fait qui me sont arrivées. Voilà, les erreurs que j'ai faites et que je n'ai pas faites. J'espère que tu es prêt. C'est parti pour les erreurs à ne pas faire en immobilier. Alors, tout d'abord, on va recontextualiser la chose. Donc, comme je te disais, cet appartement, je l'ai acheté il y a 10 ans. Donc, à cette époque-là, j'étais responsable adjointe en crèche. J'étais éducatrice jeune enfant dans cette crèche. Donc, j'avais pas de CDI, mais j'étais contractuelle en fait, parce que bon, quand on bosse à la mairie, c'est des CDD à durée indéterminée, hein, voilà. Mais du coup, j'ai investi à ce moment-là parce que donc c'était en 2013 et j'ai quitté en juin 2014 parce que je comptais lancer mon business, donc un bar à chocolat. Et je savais que investir en immobilier sans CDI, déjà à l'époque, c'était galère. Donc j'en ai profité d'avoir ce travail plus ou moins stable pour investir. Et une fois que j'ai investi, ben, j'ai quitté ce travail et j'ai lancé mon bar à chocolat. Donc voilà, je me lance. Pour moi, j'ai toujours voulu investir en immobilier, puisqu'en fait, ben, quand j'étais petite, on avait la maison de famille que j'ai vendue avait un appartement avec des locataires. Donc j'ai toujours vu des loyers rentrer. Donc pour moi, c'était normal d'avoir un investissement locatif pour faire rentrer des loyers et pour préparer ma retraite que je n'aurais pas. Donc je me lance et là, première erreur, je t'en ai déjà parlé dans l'intro de cet épisode, c'est qu'en fait, j'y suis vraiment allée freestyle, je ne me suis pas formée. Et comment vous dire qu'en plus, cette erreur, je l'ai faite deux fois. Parce que j'ai lancé mon business de la même manière. J'y suis allée. Donc d'un côté, c'est bien de se lancer. Hein, c'est voilà, c'est la jeunesse. On y va, on fonce droit dans le mur. Oui, voilà, on fonce, on y va, on passe à l'action. C'est super. Mais sans se former, ben, on fait énormément d'erreurs. Alors, il faut pas trop se former et trop réfléchir parce que sinon on ne passe pas à l'action et le plus important vraiment de tout c'est quand même le passage à l'action hein, sinon on n'a rien mais il faut se former un minimum pour avoir des connaissances et éviter en fait toutes les erreurs qui vont suivre parce qu'en fait c'est ça en fait si on fait énormément d'erreurs c'est parce que ben on n'a pas les connaissances on s'est pas formé. En plus de ça, se former, ça fait également gagner beaucoup d'argent. On a tendance à ne pas vouloir en dépenser de l'argent, justement, à ne pas vouloir investir de l'argent dans les connaissances, hein. On préfère les gadgets et l'éphémère et toutes ces choses-là, alors que, voilà, on est prêt à mettre 1000 balles dans un iPhone, mais pas dans une formation. En plus, quand je vous parle de formation, ça peut être aussi des formations gratuites. Je veux dire, maintenant, avec Internet, avec YouTube, vous pouvez faire, mais tout ce que vous voulez. Il y a tout sur YouTube. Donc voilà, sur les blogs ou même à l'époque, il n'y avait pas autant de YouTube, mais voilà, vous avez toujours les blogs quand même, les gens qui partagent leur propre expérience. Et ça, c'est un enrichissement, mais énorme. Et je vous parlais d'argent parce que oui, quand vous investissez de l'argent sur vous-même en vous formant, vous en économisez, mais alors énormément parce que ben, vous faites des erreurs qui vont vous coûter cher. Donc, formez-vous, comme ça vous éviterez ces erreurs et donc vous économiserez de l'argent. Faut vraiment faire cette différence en fait entre dépenser et investir. Ce n'est pas la même chose. Et quand on sort de l'argent de sa poche pour se former, acquérir des connaissances, ce n'est jamais une dépense, mais un investissement. Vous investissez sur vous-même. Donc, je me lance dans cet investissement locatif. Je ne sais absolument pas par où commencer. Et pour ça, il faut que je sache combien je peux investir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée voir le banquier. Oui, très mauvaise idée. Erreur numéro 2. N'allez pas voir un banquier sans être préparé, sans avoir un projet en fait à lui proposer. Moi, j'y suis allée en disant, je veux investir, je veux acheter un appartement, combien je peux mettre? Le banquier, en gros, je l'ai fait chier, quoi. Il avait d'autres choses à faire. Là, il s'est dit, la petite nénette, là, qu'est-ce qu'elle veut? Elle a qu'à regarder sur Internet. Et oui, allez voir sur Internet. Vous avez des sites comme c'est meilleur taux en fait où vous avez tout. Vous rentrez votre salaire, vous rentrez vos charges, vos revenus, tout, et ça vous calcule vos mensualités, votre capacité d'épargne, votre taux d'endettement, enfin ça fait vraiment tout, ces calculs. Donc, allez faire ça sur Internet, n'allez pas voir votre banquier pour lui demander combien je peux. Il n'en a rien à battre, il a d'autres choses à faire beaucoup plus importantes. Donc voilà, pour ces petites infos comme ça, cherchez sur Internet et allez voir le banquier que quand vous avez votre projet déjà en fait. Ficelé. Au final, vous avez déjà fait les visites, vous savez ce que vous voulez acheter, vous préparez votre dossier et vous allez voir le banquier et pas comme quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, mais vraiment comme un partenaire, quelqu'un où enfin, il va y avoir un échange gagnant-gagnant en fait. Voilà, moi je vous propose ça, vous me financez, mais derrière, voilà moi ce que je vous propose, un projet génial, vous défendez votre truc et là, ça passera beaucoup mieux que d'y aller sans savoir ce que vous faites là en fait. En plus, je me rappelle, j'étais allée, c'était au CIC, et le conseiller, je le revois en plus me marcher devant, faire les 100 pas, les 100 pas dans son bureau. Et en plus de ça, donc je lui demande combien je peux. Enfin voilà, je débarque. En fait, j'étais allée chercher les informations auprès de lui, au final. Et il m'avait dit, de toute façon, si vous n'avez pas de CDI, moi, je vous prête pas. Donc en fait, je suis partie de là déjà avec un nom. Et ce qui m'amène aux erreurs que beaucoup de gens font, enfin à l'erreur que beaucoup de gens font, mais que moi, je n'ai pas fait, c'est d'aller voir qu'une seule banque, de s'arrêter à la parole d'une seule personne. Non, jamais. Il y a énormément de personnes sur cette planète, il y a énormément de banques en France. Ne vous arrêtez pas à ce que vous dit une personne. Chacun, en fait, vous répond, vous parle avec sa propre vision, son propre prisme, en fait. Sa vision passe à travers un prisme qui est totalement différente en fonction des personnes. Et quelqu'un qui va voir admettons, vous amenez votre projet, une personne va trouver ce projet bidon ou très risqué, alors qu'une autre, en fonction de sa tolérance au risque, va trouver ça génial et va vous suivre. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à une seule personne. Ni à deux, ni à trois, ni à quatre d'ailleurs, hein, parce que je suis, une fois que j'ai vu trouver mon projet, je suis allée voir le Crédit Agricole cette fois, qui, alors, J'avais ma banque de toujours, c'était le Crédit Agricole de Saint-Tropez, dans le Var. Et là, j'avais déjà déménagé sur Miramas. L'investissement que je voulais faire était sur Marseille. Et donc, j'étais allée voir le Crédit Agricole de Miramas, donc des Bouches-du-Rhône. Le rendez-vous a duré 5 minutes, même pas. En fait, je suis rentrée, je lui ai dit, oui, voilà, je voudrais investir dans tel projet et tout. Et en fait, elle m'a dit, mais vous avez une résidence principale? Non, je suis hébergée à titre gracieux chez mon mari. Donc non, je n'ai pas de résidence principale, enfin, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale. Et donc là, elle m'a répondu, eh ben, on ne vous prête pas, puisque on ne prête pas pour de l'investissement locatif si vous n'êtes pas déjà propriétaire de votre résidence principale. Ok, est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Mais bien sûr, imaginez, votre mari vous quitte, vous perdez votre emploi et vous avez un accident, comment vous faites pour payer votre crédit? Le rapport, puisque c'est un investissement locatif et que c'est le locataire qui va payer le crédit, mais bon, bref, voilà, cette personne en fait n'était pas ouverte, n'était pas câblée sur ce type de projet. Elle avait peur. Et si je m'étais arrêtée à ce qu'elle avait dit et que je l'avais écoutée, en fait, parce que c'est un professionnel, c'est normal qu'on veuille écouter ces personnes qui devraient faire foi, enfin, parce qu'elles ont les connaissances. Ben, en fait, non. Parce que, comme je vous disais, chacun parle avec son propre prisme. Et du coup, ben, elle, c'est peut-être ce qui lui est arrivé. Et du coup, elle avait peur. Donc, elle m'a sorti ça. Et au final, je me suis faite financer par la banque postale. Donc, il y a deux banques qui ont décidé de me suivre, la banque postale et le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, oui, Caisse d'épargne. Non, Caisse d'épargne. La banque postale et la Caisse d'épargne. Ça, l'écureuil, là, je sais plus. C'était les deux seules banques, en fait, qui finançaient et qui faisaient la différence, en fait, entre un CDD et un contractuel. Parce qu'ils savent que, voilà, quand vous êtes embauché par la ville, c'est des CDI, mais en fait, c'est des CDD qui vous renouvellent tous les mois, tous les ans, et ils changent juste une ligne, et pendant 10 ans, vous avez toujours un CDD chez eux. Donc, en fait, eux, ils faisaient la différence entre, voilà, entre CDD et contractuel. Donc, ce sont les deux banques qui m'ont financé. Donc, j'ai choisi la banque postale. Et là, donc, je change de banque, forcément, parce que je me suis faite financer. Et ma conseillère du Crédit Agricole de Saint-Tropez m'appelle en disant, mais pourquoi vous êtes partie? Alors j'ai dit, bah écoutez, je voulais investir en immobilier et la conseillère du Crédit Agricole des Bouches-du-Rhône m'a dit qu'elle ne me financerait pas parce que investissement locatif, pas propriétaire, résidence principale, blablabla. Et là, limite, elle m'a engueulée en disant, mais pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Mais moi, je vous aurais financé, je vous aurais suivi. Et là, c'est ça aussi que je veux vous dire, c'est faites la différence en fait entre les banques et les conseillers. Enfin, en fait, c'est vraiment la personne que vous avez en face de vous. Donc, une personne du Crédit Agricole va vous dire non, une autre personne du Crédit Agricole peut vous dire oui. C'est pas oh, telle banque ne me finance pas. Non, peut-être que la banque dans le département d'à côté ou dans la ville d'à côté va vous financer parce que le conseiller sera open à ce que vous allez lui dire et croira en votre projet. Donc voilà. Là, on est déjà à trois erreurs, hein. La première, c'est de ne pas se former. La deuxième, c'est d'aller voir un banquier pour lui demander des conseils, voilà, sans projet déjà défini. Et la troisième erreur, s'arrêter à une seule personne. Ça, ne jamais faire dans n'importe quel domaine que ce soit, pas que les banques, voilà. Je connais des personnes, enfin, j'ai déjà entendu des podcasts ou des interviews où les personnes disent qu'elles ont eu 17 refus, 29 refus bancaires avant d'en avoir un. Donc, ne lâchez pas si vous croyez en votre projet. Continuez à chercher, vous tomberez bien sur une personne qui croira également en vous. Pour en revenir un peu au projet immobilier, en fait, parce que je me rends compte que je vous en ai pas vraiment parlé, c'était un appartement sur Marseille, dans le quartier du Panier, pour ceux qui connaissent. Petit appartement assez atypique en fait. C'était la seule cave du panier et ils l'ont rattaché à cet appartement. Donc en fait, le studio s'est transformé en T1. Enfin, il y avait la cuisine dans le salon, il y avait toilettes et salle de bain séparées, et en fait, après, vous descendiez à la cave et vous avez une pièce supplémentaire qui, alors, ne pouvait pas vraiment être considérée comme une chambre puisque pas de fenêtre, mais c'était voilà, c'était quand même une pièce supplémentaire. Par contre, très humide. Et donc voilà, j'ai acheté ça à l'époque 90 000 euros. Et l'erreur, ça aussi, ça dépend en fait de votre situation et de ce que vous recherchez. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'erreur, je l'ai acheté, il était déjà tout prêt en fait, il était rénové. Donc forcément, avec le temps, il a plus perdu de la valeur que ce qu'il en a pris. Hein. Je l'ai revendu 5 ans après et en fait je l'ai revendu quasi au même prix. Voilà, l'immobilier n'avait pas vraiment augmenté dans le quartier. Et comme je l'ai acheté neuf, j'allais pas refaire des rénovations. Enfin, il était déjà rénové, donc voilà, aucune plus-value. Après, comme je vous dis, ça dépend vraiment de votre stratégie. C'est vrai que d'acheter, de faire des travaux à la revente, vous avez dans la majorité des cas une plus-value. Là, au final, le bénéfice, la plus-value, c'est celui qui a fait les travaux qui l'a eu, et donc pas moi. Mais après, si dans votre stratégie, c'est d'être rapide ou par rapport à à votre fiscalité, vous pouvez acheter des appartements déjà tout prêts, déjà loués. Enfin voilà, ça c'est vous qui voyez. C'est pour ça que je dis c'est quand même une erreur parce que vaut mieux acheter des biens avec travaux pour apporter de la qualité et faire des plus-values là-dessus. Mais après, ça, cette erreur, elle dépend vraiment de chacun. Pour en revenir côté financement, j'ai fait une erreur, monumentale erreur. J'ai mis en fait toute mon épargne dans le projet. J'avais économisé puisque j'étais hébergée à titre gracieux, je vous le rappelle. Et donc en fait, tous les mois, je mettais de côté un loyer. Quand je suis arrivée à 10 000 euros, j'ai acheté et j'ai dit, j'ai 10 000 euros d'apport. Voilà. À l'époque, l'épargne de précaution, je ne savais pas ce que c'était. Donc, attention. Faites bien votre épargne de précaution. Celle-ci, elle dépend vraiment pareil de chacun. On dit toujours que c'est entre 3 et 6 mois de dépenses. Après, ça dépend vraiment de votre tolérance au risque. Si vous vous sentez bien avec 10 000 euros de côté ou il vous faut 30 000, si il vous faut 1 an ou 2 ans de revenus de côté, c'est vous qui voyez. Attention quand même de ne pas tomber dans l'excès et dans votre doudou qui au final ne servira jamais à rien. Mais voilà, c'est vous qui la fixez. Logiquement, c'est entre 3 et 6 mois. Vous faites cette épargne, vous la mettez de côté et vous n'y touchez plus. N'est-ce pas? Vous la gardez. Au cas où, par précaution, c'est dans le titre, voilà, au cas où il vous arrive quelque chose, hop, vous pouvez piocher dedans. Et pareil, à chaque fois que vous faites un investissement locatif, là aussi, vous refaites votre épargne de précaution. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai mon épargne de précaution perso, au cas où s'il m'arrive quelque chose, si je perds mon emploi, si il faut que je change de voiture, enfin, même si ça, vous pouvez le budgétiser, mais enfin voilà, un imprévu, quelque chose qui vous tombe dessus. Vous savez que vous avez cette épargne. À chaque fois que vous achetez un appartement, que vous mettez en locatif, l'argent que vous récupérez, le cash flow, vous ne le dépensez pas de suite, hein, vous le mettez de côté pour refaire cette trésorerie, pour vous refaire une épargne de précaution pour ce bien. Comme ça, si à un moment, le locataire se barre ou le locataire ne vous paye plus et vous n'avez pas la garantie visuelle, voilà, si il arrive un couac, vous avez cette épargne liée au bien et vous piochez pas dans votre épargne perso. Enfin bref, voilà. Déjà, ayez une épargne de précaution. Et ensuite, votre épargne, ne mettez pas tout dans le projet parce que il y aura toujours des trucs en plus. Il y aura toujours des problèmes. Et ça, pareil, cette erreur, je l'ai faite 2 fois. Je l'ai faite aussi pour le business. J'ai tout mis et mon sac. Enfin, j'ai tout mis parce qu'en fait, il y avait plein de choses que j'ai pas prévues et qui sont arrivées. Et voilà. Et au final, je me suis retrouvée avec zéro en poche. Et je vous mets dans le mille alors la locataire payait, mais elle payait vraiment. Un coup c'était le 5, un coup c'était le 15, un coup elle payait la moitié le 5, l'autre moitié. Enfin voilà, elle payait, mais elle avait du mal. Et du coup, moi ça me mettait dans la merde puisque je n'avais pas d'épargne de précaution. J'avais mis tout mon argent et j'avais pas de matelas de sécurité pour absorber en fait ce décalage de trésorerie. Donc ne mettez pas tout votre argent dans un projet, gardez-en toujours déjà en précaution, mais aussi pour tous les couacs, tous les problèmes qui peuvent arriver, parce que croyez-moi, il y en aura toujours. J'ai également été dans le caca à cause de ce loyer. Parce qu'en fait, j'ai. Alors, déjà, j'ai mal calculé la rentabilité. En fait, et ça vient du fait que je ne m'étais pas formée. En fait, pour moi, le bien devait s'autofinancer. Donc, tant de crédit, il me faut tant de loyers en face. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on calcule. C'est pas 100% du loyer qui doit couvrir votre crédit, c'est 70% du loyer qui doit couvrir les 100% du crédit et les 30% restants, c'est tous les à côté, la taxe foncière, les certaines charges, enfin bref, voilà, j'ai pas calculé, j'ai mal fait ça, donc là, formez-vous à ça, regardez comment on fait et ne faites pas la même connerie que moi. Et cette connerie, d'ailleurs, je l'ai faite à cause d'une autre erreur, ça aussi, et ça maintenant, je ne la fais plus du tout. C'est que, en fait, si j'ai mal calculé mon coût, voilà, pour moi, le bien s'auto-financer, même si, voilà, comme je viens de vous expliquer, ce n'était pas le cas, mais pour moi, il s'auto-finançait parce que l'agent immobilier m'avait dit que je louerais cet appartement à 600 euros. Ok, c'est agent immobilier, il connaît les marchés, il connaît les prix du marché, donc je vais louer cet appartement à 600 euros. Eh bien, non, je l'ai loué 500, donc. Déjà, je devais en mettre de ma poche, mais là, du coup, je devais en mettre encore plus. Donc, la confiance n'exclut pas le contrôle. Vérifiez, ne croyez pas les professionnels. C'est triste à dire, ça m'arrache un peu la bouche de dire ça. Mais dans les professionnels, vous en avez des très bons, qui sont très peu. Vous en avez des bons et vous en avez qui sont là. Et je ne sais pas pourquoi. Donc, dans n'importe quel domaine, quand quelqu'un vous dit quelque chose, vérifiez quand même l'info. Moi, voilà, j'ai fait confiance à un professionnel et alors, déjà, comme je disais, c'est aussi de ma faute, hein, je ne mets pas toute la faute sur lui, non, c'est ma faute, je ne suis pas formée, je ne me suis pas renseignée et je n'ai pas vérifié ce qu'il m'a dit. Donc, au final, je me suis retrouvée à faire énormément d'efforts d'épargne sur ce bien. Donc, quand vous achetez un investissement, enfin, quand vous achetez un appartement pour l'investissement locatif ou pour autre, vérifiez bien toutes ces infos. Comme je vous disais, sur Internet, on trouve tout. Donc, voilà, la tension locative, les prix du marché, vous faites des comparatifs, vous allez sur le bon coin et vous regardez un peu toutes les annonces de biens similaires aux vôtres et à combien sont les loyers. Vous pouvez faire aussi des fausses annonces pour tester et voir s'il y a des personnes qui répondent aux annonces au prix auquel vous l'avez mis. Faites bien vos calculs de combien va vous coûter ce bien et combien vous allez récupérer via les loyers. Enfin voilà, formez-vous là-dessus, faites bien vos recherches et ça se passera bien. Donc voilà, là on est déjà, j'ai oublié de compter les erreurs, mais là on a un beau panel entre ne pas faire confiance aveuglément à un professionnel, bien calculer la rentabilité du bien, ne pas mettre toute son épargne. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur également que j'ai faite sur ce bien? C'est, oui, ne pas prendre en compte la fiscalité. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, en fait, enfin, qu'on n'est pas. À 18 ans, on ne sait pas remplir une feuille d'impôt. Enfin, moi, je ne savais pas comment faire. Je crois que j'ai appris, j'en apprends encore des choses sur ces impôts. Enfin, on n'est pas formé là-dessus. Et en fait, ben, je me suis retrouvée à payer énormément d'impôts sur ce bien. Je l'ai mis en meublé, donc c'était déjà mieux que si je l'avais mis en nu. Sauf que je l'ai mis en meublé parce que mon papa m'avait dit que c'est plus facile de virer un locataire quand on le met en meublé qu'en nu. Voilà pour la raison pour laquelle j'ai meublé cet appartement et absolument pas pour la fiscalité parce que du coup je ne savais pas qu'il y avait le microbic et le réel et tout ça. Donc voilà, ça pareil, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Donc on doit le faire, apprendre par soi-même, aller faire nos petites recherches et voilà, acquérir ses connaissances sur la fiscalité. C'est en fait vraiment le nerf de la guerre, quoi, la fiscalité. Quand vous savez tout ce que vous pouvez faire passer en charge sur vos sociétés ou quoi. Et en fait, je vais vous dire un secret, si les riches sont aussi riches, c'est parce qu'ils maîtrisent les impôts et la fiscalité. C'est tout. Voilà. Les riches ne sont pas des personnes méchantes qui se sont enrichies sur le dos des autres. Non, c'est juste qu'ils connaissent les règles du jeu et qu'ils jouent avec. Voilà. C'est juste qu'ils sont plus intelligents. C'est tout. Donc voilà un peu toutes les erreurs que j'ai faites et pas faites sur ce bien. Donc comme je vous disais, je l'ai acheté il y a 10 ans, en 2000, 2014, janvier 2014. Je l'ai revendu le 31 décembre 2019 parce que c'était une période assez compliquée avec la boutique, le décès de mon papa et j'avais plus la tête pour m'en occuper. Je l'avais mis à l'époque en location classique. Donc la première année, je l'avais mis en location longue durée. Comme je disais, avec la locataire qui c'était un calvaire même si elle payait. Ensuite, elle est partie. Au bout d'un an, elle m'a laissé l'appartement dans un sale état. C'était pas saccagé, mais c'était dégueulasse. Genre, elle avait jamais fait le ménage pendant un an. Et l'agent IMO qui avait fait l'état des lieux de sortie, en fait, avait juste dit c'est bon, ça va, tout est bon. Mais non, en fait, tout n'est pas bon. Donc, je lui ai. Alors, pas que j'ai pas rendu la caution parce que, ça marche pas comme ça, hein. Donc j'étais allée voir à l'époque un conciliateur de justice et le conciliateur m'avait dit, en fait, vous chiffrez tout ce qu'il y a à faire et vous lui dites, voilà, vous faites ça ou je ne vous rends pas votre caution. Enfin voilà, en fait, il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça vaut tant. Soit vous faites propre, soit vous payez. Et au final, elle est revenue, elle a nettoyé. Il y avait le matelas il y avait des taches de pisse, de plein de choses. Enfin, il était vraiment affreux. Il y avait un mur qui s'était un peu affaissé, le rebord de fenêtre. Enfin, elle avait dû sauter dessus ou s'asseoir dessus. Le canapé qui était un peu brûlé. Enfin, bref, il y avait plein de choses. Donc, elle l'a remis quand même dans un bon état. On s'est arrêté là. J'ai changé d'agent IMO pour relouer l'appartement. Il était également en longue durée la deuxième année, sauf que l'agent IMO trouvait pas de personne. Donc j'ai eu beaucoup de vacances locatives et toujours pas d'épargne hein, pour combler ce trou, voilà, ce manque. Et au final, quand j'avais la boutique, le commerce d'en face, en fait, la fille avait un appartement qu'elle louait sur Paris en Airbnb. Et elle m'a dit, pourquoi tu mets pas sur Airbnb? Et du coup, j'ai fait ça. Alors pareil, j'y suis allée freestyle sans me former. J'ai rien déclaré du tout. Juste que je ne savais pas. Donc je l'ai mis en location courte durée. Donc ça m'a vraiment soulagée en termes de finances parce que un appartement dans le panier Marseille, enfin, ça se louait très bien. Par contre, comme je vous disais, c'était une période assez compliquée. Donc à aucun moment je me suis dit qu'on pouvait, avec mon mari, déléguer, automatiser. Et du coup, c'était nous qui faisions tout. C'était lui qui y allait le matin, super tôt avant le taf pour faire le ménage ou qui restait tard le soir parce que les locataires arrivaient, le train avait du retard. Enfin bref, c'est voilà, pareil, pas formé, pas informé. Et aussi, comme je vous disais, j'avais le cerveau qui n'était pas là. Et au final, en 2019, on a décidé de le vendre parce que gros souci financier, succession à payer. Donc au final, j'ai vendu l'appartement 85 000 euros, donc moins que ce que je l'ai acheté, et j'en ai récupéré pas grand-chose parce qu'en fait j'avais renégocié le crédit pour me baisser ma mensualité, et du coup j'ai dû gagner 3 000 euros qui m'ont servi à payer une partie des frais de succession. Voilà. Donc voilà l'histoire de cet appartement à Marseille. Et je voulais m'arrêter sur une dernière chose, une dernière erreur que je n'ai pas faite à cette époque, mais que je me rends compte qu'au final, là, je fais un peu plus, c'est de ne pas passer à l'action. Ça, c'est vraiment l'erreur ultime. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, faire tous les calculs que vous voulez, vous former autant que vous voulez. Si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a 10 ans, je passais beaucoup plus à l'action que maintenant. Je continue à passer à l'action, mais je trouve que je réfléchis plus. Maintenant que je sais plus, en fait, je cogite plus. Et c'est pas très bien. Donc voilà, n'oubliez pas cette erreur-là, qui est dans la liste de toutes les erreurs que je viens de vous citer. Je ne sais pas si on peut vraiment les classer, mais celle-là fait partie du top. Ne pas passer à l'action, c'est vraiment la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Voilà. Même maintenant, je peux vous le dire avec toutes ces péripéties que je vous ai racontées. J'ai toujours envie d'investir en immobilier locatif puisque ça reste un des piliers de l'enrichissement et que si on veut avoir une meilleure vie à sa retraite, qu'on n'aura pas par l'État, hein, ne comptons pas sur les autres pour faire son propre bonheur, on compte sur soi-même et donc on passe à l'action. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Racontez-moi un peu, les erreurs, les grosses conneries que vous avez faites dans votre tout premier investissement. Et puis, pensez à vous abonner, à liker, à partager, surtout à me faire connaître ce podcast. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Bye!